Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
La zone payante. Bienvenue dans votre balado de football préféré, la zone payante. Et là, on commence à parler des vraies choses. Les séries de la NFL qui sont directement là, à nos portes, là, à deux pouces, à quelques heures de commencer. Je suis avec mes acolytes habituels, Stéphane Cadorette, journaliste au Journal de Québec, spécialiste NFL.
Fébrile.
Fébrile?
Oh que oui.
Excellent. Et John Essay, fébrile?
Oui, tout à fait. Et après du bon college football, là, on peut passer aux vraies affaires.
Jean Carrier, qui est notre spécialiste fantasy et ex-analyste du Rouge et Or football. Alors, messieurs, le plan de match ce matin, on va commencer avec les vraies affaires, nos prédictions pour les matchs du week-end, et on va y aller match par match. Et on commence avec le match du samedi après-midi. Bills qui visite les Texans. Première impression de ce match-là, Steph, là, sans donner de prédiction, juste ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Ben, c'est des forces opposées un peu. Je vois les Texans qui ont une attaque assez dynamique, sont capables de courir avec le ballon. Il y a Deshaun Watson qui opère sa magie, qui est capable de faire des ravages autant par son bras que ses jambes. Des receveurs explosifs. Puis de l'autre côté, c'est évidemment la défense des Bills. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas une bonne attaque, mais c'est rien de spectaculaire pour l'instant. Beaucoup de jeunes qui apprennent à jouer ensemble tranquillement. Je pense que c'est des bonnes bases pour le futur, mais dans le moment, c'est pas une attaque qui est encore atteint proche de son plein potentiel. Puis tu regardes la défensive, c'est des chiffres impressionnants.
C'est une autre affaire en défensive, les Bills, on est dans une autre ligue.
Écoute, t'es deuxième en termes de points accordés, troisième en termes de verges accordées, donc c'est une défensive qui se tient fort. On en reparlera. Il y a une affaire qui me fait peur du côté des Bills. On y reviendra un peu plus tard parce que je veux laisser la parole à Johnny aussi. Mais la qualité de l'opposition des Bills, ça a laissé à désirer cette saison. Donc, c'est évident que ça, c'est un gros point d'interrogation pour moi.
Johnny, première impression de ce premier duel du week-end?
Un peu de contraste, je dirais, tu sais, que je vois les faiblesses, tu sais, de Houston, entre autres en défensive aérienne, qui sont absolument horribles.
Ouais.
Puis là, tu te dis, les Bills vont peut-être en profiter, mais les Bills, c'est pas leur force, ça. C'est, donc, tu sais, c'est...
Plutôt courir.
Courir, puis ils font bien, ils sont dans le top 10, là, au niveau de la course, mais au niveau aérien, écoute, ils sont 26e dans la ligue cette année. Donc, avec 201,6 verges par match, c'est pas tant. Puis au niveau aérien en défensive, Houston est 29e dans la ligue. Il donne une moyenne astronomique de 267,2. Fait que tu te dis, écoute, est-ce qu'ils vont être capables d'exploiter cette faiblesse-là? Je suis pas certain. Je pense vraiment que les deux équipes vont y aller par leurs forces respectives. Et pour les Bills, ça va passer par le jeu au sol. S'ils parviennent à être en mesure de courir le ballon, je pense qu'ils peuvent avoir toutes leurs chances. Puis vous savez ce qu'on dit, à mes yeux, les défensives gagnent des championnats.
Et dans ce match-là, la meilleure défensive, c'est celle des Bills.
Aucun doute.
Aucun doute, mais c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, c'est suspect. Directement, on va tout de suite aux prédictions.
J'amènerai un point sur la défensive des Bills. T'sais, on en parle avec raison, c'est une défensive qui est en pleine ascension là, cette année, mais je fais juste attention. Il y a une chose, moi, quand je regardais, j'ai scruté tout leur calendrier cette année, ils ont affronté des carrières abominables, honnêtement. Écoute,
Devlin Hodges
en est un, mais écoute, là, ils ont pogné au début de l'année les Giants avec Eli Manning, qui était complètement perdu à ce moment-là, qui n'avait aucun punch offensif. Ils ont eu les Titans du Tennessee avec Marcus Mariota, qui était mêlé comme une poignée de clous.
Et non Superman Tannehill.
C'est ça. C'est complètement différent comme portrait. Il y a eu, évidemment, là, des matchs contre les Dolphins, les Browns, les Redskins. Je me demande si c'était pas le premier départ ou un des premiers de Dwayne Haskins. qui n'était pas le même joueur qu'en fin d'année. Ils ont eu les Broncos avec Brandon Allen, tu sais, l'entre Flacco et Drew Lock. C'était à peu près la pire période des Broncos. Il y a ça qui me fait peur. Il y a ça que je me dis, oui, les chiffres sont là, les statistiques démontrent que c'est une défensive de qualité. Mais là, tu affrontes vraiment une équipe en Houston qui a battu des équipes sérieuses, qui a battu les Pats, qui a battu les Chiefs. C'est une toute autre paire de manches que de battre les corps arrière là, dont je viens de vous lister.
Johnny, le corps arrière des Texans, M. Watson, a déjà eu des matchs ordinaires en série. As-tu la sensation qu'ils vont nous en sortir une bonne, que ça pourrait être le début de belles choses pour monsieur en série éliminatoire?
Oui, mais tu sais, je pense qu'il y a besoin d'une attaque équilibrée. Quand Houston est unidimensionnel, c'est pas une équipe.
C'est-à-dire qu'ils font rien que passer.
S'ils font juste passer, c'est pas une équipe qui a autant de succès que quand ils sont bien équilibrés. Moi, je pense qu'ils ont besoin de courir avec Carlos Hyde dans ce match-là. Même pas nécessairement. Si t'as du succès, tant mieux.
Mais si t'en as pas, c'est pas la fin du monde.
Ben, il faut au moins que tu te fasses respecter au sol. Puis je pense que Hyde est capable de le faire. Et s'il y a une faiblesse dans la défensive des Bills, c'est peut-être celle-là. C'est au niveau de la course, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas aussi bons que au niveau aérien. Au niveau aérien, les Bills, écoute, sont quatrièmes dans la ligue. Au niveau de la défensive au sol, sont dixièmes, donnent un peu plus de 103 verges par match. Donc, tu peux trouver une façon de courir contre eux. Et quand ils ont perdu des matchs, je pense entre autres aux Eagles en début de saison, ben, ils s'étaient fait ouvrir un petit peu au niveau terrestre. Ce que je voulais mentionner aussi, au niveau des blessures, c'est important des fois de mentionner. Là,
oui, il faut aller faire un tour du côté de la clinique des fois.
Ouais, ben, du côté de Houston, Will Fuller, le receveur, qui est quand même important, je trouve, pour eux, qui leur donne un arme.
Il leur donne la profondeur de grande qualité.
Exactement.
Will Fuller, qui est un cas incertain depuis toujours, depuis sa naissance.
Oui, c'est clair.
On sait jamais s'il joue d'une semaine à l'autre.
Devrait être en mesure de jouer. Puis, il faut pas oublier le retour de J.J. Watt aussi.
Majeur.
Pour les Texans, ça reste quand même un joueur dominant. Est-ce qu'il va être en mesure d'aider? Fait longtemps qu'il a pas joué.
Est-ce qu'il va être un joueur d'impact là?
C'est ça qu'il faut... C'est une bonne question. Puis il faut pas oublier que le dernier match des Bills, Trey Davis-White s'était blessé. C'est-tu le dernier match, mais il y avait eu une blessure à la cheville. On parle qu'il devrait être en mesure de jouer, mais ça reste que pour un demi-coin, si tu joues blessé sur une cheville un peu maganée, puis que tu as besoin de surveiller les receveurs des Texans qui sont très solides, ben faut se poser la question à quel point. Ça va affecter la couverture aérienne des Bills.
Tu veux absolument Tre'Davious White à 100% contre DeAndre Hopkins?
Aucun doute.
Parce que...
La game va être longue. On y va avec nos prédictions, bien sûr. Je regarde du côté de Stéphane Cadorette. Qui remporte ce match, là, ce premier match du week-end pour les Wildcards?
Je vais y aller avec une victoire, disons par un 6 points, quelque chose comme ça, des Texans d'Houston. Puis Jean mentionnait rapidement là, le retour de J.J. Watt. Puis je pense que c'est un impact qu'il faut certainement pas sous-estimer. Non seulement en termes de production, mais c'est le leader, c'est l'âme de cette équipe-là, J.J. Watt. Je pense que ça va avoir un effet vraiment fédérateur. Ça va être galvanisant là, pour la défensive des Texans. Je vois pas pour l'instant assez de potentiel explosif à l'attaque des Bills pour renverser les Texans. Je pense qu'on assiste au début de quelque chose là, dans le cas des Bills, puis je serais pas surpris du tout qu'ils fassent un gros bout de chemin l'an prochain. Mais pour l'instant, on est au stade un petit peu embryonnaire. C'est le début de quelque chose. Les fans vont devoir peut-être patienter encore un petit peu. Là. Je sais que la dernière série, victoire en série, remonte à 95, sauf erreur. Donc, ils vont nous dire que la patience, ils en ont eu en masse. Là. Mais ce serait quoi une autre année de plus?
Pas si pire que ça. Jean Carrier? Qui gagne ce match?
Écoute, je suis tenté d'y aller beaucoup avec les Bills parce que j'aime vraiment leur défensive. Puis je trouve qu'ils ont une équipe de caractère.
Oui, le carrière joue tough, physique. Il est capable de gagner des grosses verges au sol.
J'aime l'entraîneur-chef aussi, mais je pense que quand tu regardes un match de série, c'est important d'évaluer les deux pivots. Puis pour moi, Watson est vraiment supérieur à Josh Allen présentement. C'est un carrière qui est, je pense, nettement plus peut-être pas plus expérimenté, mais il sait un peu plus où ce qui s'en va. Il a plus d'aptitude pour lancer le ballon.
Peut-être plus d'outils aussi autour de lui.
Oui, peut-être, effectivement. T'sais, quand tu regardes l'attaque aérienne des Bills, c'est sûr que c'est pas le bon point, Mathieu. Mais
ils ont fait des choses intéressantes avec des gars comme John Brown puis Cole Beasley, mais c'est quand même pas des receveurs de premier plan.
Exact. C'est pas Hopkins, là, tu sais.
Tout à fait. Donc, pour tout ça, moi, je vois les Texans dans un match serré, 23-17.
Je vais y aller avec les Texans aussi, mais je vais y aller un petit peu moins serré. Moi, je vais y aller avec un 30-17. Là. Je sens que le talent offensif des Texans va faire la différence. On poursuit, messieurs, et on s'en va le samedi soir, 8h15, deuxième match de Wild Card du week-end. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attention sur ce match-là. Les Titans qui visitent, et on s'attendait pas à dire ce nom-là à ce stade-ci, les Patriots. Ouais. Défaite honteuse contre les Dolphins le week-end dernier. Tu peux pas être à la maison, être en contrôle de la situation, aller perdre contre un club de même. C'est ridicule, mais c'est ce qui est arrivé. Stéphane, donc les Patriots sont pris pour jouer en fin de semaine. Et rappelons-nous, le dernier match Titan-Pats, les Titans leur avaient marché sur le corps.
Ça avait été quoi, 34-10, quelque chose comme ça?
Volé, vraiment un bon blowout. Là. Les passes n'avaient jamais été dans le coup dans ce match-là. Le match était à Tennessee, par contre.
Puis c'est vraiment un cas rare. Là. Les Pats, en première ronde, là, au fameux wild card, ça remonte à 2009.
Ben, oui, exactement. Ça vous aurait fait, s'il s'était classé cette année, ça aurait fait 10 ans de suite qu'il allait directement là, avec un bail.
Ouais, puis écoutez, ceux qui pensent que ça change rien, que les Patriots sont les Patriots, faut faire attention parce que lorsqu'ils ont été pris pour jouer en première ronde, ils ont une fiche de 3-3 en série.
Et combien de Super Bowl?
Zéro.
Zéro, voilà.
Donc, leurs 9 présences, leurs 6 victoires, c'est survenu quand il y avait un bail en première ronde. Donc, c'est un facteur qu'il faut pas négliger. Là. C'est pas vrai que c'est rien.
Non, moi, je pense que c'est même majeur.
C'est majeur, puis ça rouvre la porte aux Chiefs. Là. On n'a pas nécessairement parlé.
On n'est pas rendu là, mais non.
Mais les Chiefs, moi, je trouve que c'est majeur pour eux. Puis tu voyais à quel point Andy Reid était heureux là, quand il s'est fait poser la question. Il dit, on va envoyer du steak, le meilleur steak de Kansas City à Fitzpatrick, il l'a mérité. Évidemment, il disait ça en blague, mais moi, je pense que c'est vraiment majeur pour les Chiefs.
Ah, c'est clair, ben, puis c'est majeur pour tout le monde là-dedans. Toi, Johnny, continue donc ça de ce côté-là. Titan Patriots, qu'est-ce que ça t'inspire, ce match-là? Quel duel? Qu'est-ce que tu vas regarder plus précisément?
Ben, tu sais, c'est sûr, si tu regardes ça à vol d'oiseau, puis tu dis, ben là, écoute, Brady, Tannehill, ça reste que Brady a plus d'expérience, a une meilleure carrière facilement dans l'histoire. Tu dis bon, ça va être les Pats faciles, mais c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération et les Titans ont vraiment une chance de créer une grosse surprise, à mon humble avis. Est-ce que ça va se faire? Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Moi, ce que je vois, c'est celui qui a terminé premier au niveau des verges au sol, monsieur Derrick Henry.
Avec un dernier match incroyable.
Incroyable. C'est un porteur de ballon monstrueux. Et quand je dis monstrueux, c'est au niveau physique. Là. Il fait paraître quasiment les joueurs de ligne en attaque pour des petits bonhommes. Ça reste un très gros porteur de ballon qui bouge bien. C'est la clé pour moi de ce match-là. Est-ce que les Pats vont être en mesure de l'arrêter, de le contenir, du moins de le contenir? C'est là que ça va jouer pour, moi je pense, pour les Titans, pour les deux équipes, tout simplement. Si les Titans sont en mesure d'envoyer leur bite puis d'être productifs avec, ben les Titans ont vraiment toutes leurs chances. Si les Pats, qui normalement sous Bill Belichick sont tellement bons pour éliminer la première menace voilà, d'une équipe, sont en mesure d'arrêter Henry, ça va être difficile. Sauf que c'est ça qui est le fun avec les Titans. C'est avant, tu disais, ben, écoute, ça va être terminé, mais Tannehill leur donne
une chance de gagner.
Une chance quand même de gagner au niveau aérien, mais ça va être quand même difficile, en tout cas, à mon humble avis.
Stéphane, qu'est-ce que tu regardes, toi, de ton côté, dans ce duel?
Ben, je suis content que Jean amène le point de Derrick Henry parce que je trouve que les gens sont un peu obnubilés par la renaissance de Ryan Tannehill. Puis il y a eu une excellente saison, 7 victoires, 3 défaites. Ce qui est le plus impressionnant, c'est sa moyenne de verges par passe tentée, 9.6. T'sais, ça veut dire qu'il gagne presque un first down à chaque...
Ouais, exactement.
Mais cela étant dit, le moteur de cette équipe-là, c'est Derrick Henry. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les Pats sont quand même bons contre la course. Bon, la moyenne par portée laisse à désirer. Ils accordent 4.2 verges par portée. Mais ils limitent les dégâts, c'est-à-dire qu'une moyenne de 95 verges par match contre eux, c'est fort respectable. Puis malgré leur fin de saison un peu en dentis, là, disons-le comme ça, les Pats, dans 5 de leurs 7 derniers matchs, ils ont quand même limité l'adversaire à moins de 100 verges au sol. Donc, c'est une mission dont ils sont capables de s'acquitter. C'est juste que c'est pas évident là, d'aller freiner un gars costaud, brutal, physique comme Derrick Henry. Le jeu aérien des Titans, ça a été beaucoup aussi l'éclosion d'A.J. Brown. Écoute, il y a eu des gains phénoménaux, là, des réceptions de 40, 50, 60 verges avec assez de régularité. Cela dit, la tertiaire des Patriots s'en laisse pas passer beaucoup des comme ça. Là.
Non, c'est assez rare.
Donc, ils ont beaucoup misé au niveau aérien, les Texans, sur l'explosion, sur la grosse production verticale, les longs jeux. Ça va être difficile de percer les Patriots de cette façon-là. Je pense que l'expérience joue nettement de leur côté là, en frais de tertiaire, en frais de défensive en général. Donc, c'est vraiment la clé. C'est Henry. Si tu es capable d'arrêter Henry, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
OK, excellent. Oui, Johnny?
Mais puis il faut dire aussi qu'A.J. Brown, à main, je crois que du côté des Pats, on va signer M. Gilmore sur lui. Et c'est pas une bonne nouvelle.
Dans ce temps-là, le receveur devient pratiquement un non-factor.
Écoute, ben, ça va ouvrir des choses quand même pour ailleurs. Jonnu Smith, l'ailier rapproché, qui est un peu mutant parce qu'il est très, très athlétique. Lui, se doit d'avoir un gros match pour les Titans.
Puis le seul mauvais match que Gilmore a connu, en fait, cette année, là, il y en a un seul, c'est contre Miami la semaine passée. Là.
Il était Devante Parker.
Mais il a été tellement solide cette année que même un client comme A.J. Brown, là, il devrait être capable de le maîtriser, à mon humble avis. Là. J'ai hâte de voir, c'est une belle confrontation. Est-ce que les Titans ont la défensive qu'il faut pour freiner les Pats qui vont sortir toutes sortes de trucs de leur sac? Je suis pas convaincu. Il y a une chose qui font bien les Titans, c'est beaucoup de blitz qui proviennent de la tertiaire. Là. Logan Ryan, entre autres, qui a connu une saison phénoménale au poste de demi de coin, il y a 4,5 sacs. T'sais, on blitz beaucoup les demi de coin, on blitz beaucoup les maraudeurs du côté de Tennessee.
Ça, c'est rare que des safety se ramassent avec des sacs.
Oui, mais t'sais, t'as Bill Belichick, Josh McDaniels pour contrôler un peu, pour contrer ces stratagèmes-là. Je pense que les Patriots sont en voiture de ce côté-là. Écoute, le match est à Foxborough. Ils n'ont pas perdu là en série depuis janvier 2013 contre les Ravens à l'époque. C'est quand même un facteur très intimidant que je sais pas avec lequel les Titans vont devoir composer. On a beau dire c'est du passé. Il reste que l'aura des Patriots est toujours là. J'ai hâte de voir comment les Titans vont négocier avec ça.
Steph, je reste avec toi, à moins que tu aies de quoi compléter, Johnny.
Ben, contre les Pats, je pense que peu importe l'équipe, un des points majeurs, c'est tu peux pas te contenter de botter de placement. Quand tu arrives dans la fameuse zone payante...
Touchez, s'il vous plaît!
Exact, ça prend du monde qui rentre dans la maison et les Pats sont vraiment bons sous Bill Belichick pour justement pas concéder de toucher. Donc, il faut absolument que les Titans soient opportunistes. En plus d'Henry, qui se doit d'avoir un bon match, ils se doivent d'être opportunistes quand ils vont avoir une chance. Sinon, ben, ça va être une défaite et ils vont aller jouer au golf.
S'ils ont 3 possessions là, dans la zone payante en première demi puis qu'ils sortent de là avec une avance de 9-0, c'est fini, ils vont se faire remonter. Il faut vraiment, c'est des 7 là, que tu vas épeler.
Exact, ça faut que tu aies du monde qui compte des touchés.
Bien résumé, Steph Cadorette, prédiction pour ce match.
20-13, Patriots. J'ai honnêtement... Ma tête me dit que les Titans ont tout pour causer la surprise majeure de la fin de semaine, mais j'y arrive pas. C'est un club...
T'es pas capable de faire le saut, le dernier pas.
Il m'a trop souvent surpris puis trop souvent déçu. Tu sais, d'un côté comme de l'autre, les Titans, je l'ai mentionné souvent dans notre émission, j'ai eu de la misère à les saisir. Est-ce qu'ils vont me déculoter encore une fois? Peut-être. Mais j'arrive pas à miser. Le dernier coup que j'ai misé contre les Patriots à Foxborough, rappelez-vous, c'était les Chargers de l'autre bord.
Non.
J'aimerais oublier que j'ai déjà fait ça, là, mais je l'ai fait. Donc, je le fais pas cette année.
John C., Titan ou les Pats?
Je vais prendre les Pats aussi pour plein de raisons et aussi pour le fait que tu as probablement le meilleur carrière de l'histoire, du moins en série, du côté des Pats sous ton centre. Tom Brady, il sait ce qu'il a à faire dans un match de série. C'est pas un gars qui va créer des, qui va avoir des revirements. C'est un gars qui va être en contrôle du match. Et j'ai l'impression aussi, il y a une chose, si je regardais les statistiques offensives des Pats, c'est pas nécessairement aussi catastrophique quand tu regardes les statistiques. Il y a une chose qu'ils font vraiment moins bien que par le passé, c'est courir le ballon. Ils sont vraiment moins bons à ce niveau-là que dans le passé. Ils courent 106 verges par match. Ils sont 18e dans la ligue. Ils étaient tout le temps top 10 par le passé. Mais j'ai l'impression qu'ils vont être en mesure de courir contre les Titans. Ils vont essayer vraiment d'installer le jeu au sol, ce qui devrait donner un peu de répit à Brady, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas tant d'outils. Puis Edelman, j'ai l'impression que les Titans vont le doubler. Donc, ça va prendre d'autres receveurs qui sortent. Harry commence à sortir un petit peu du côté des Pats. Je pense qu'il va avoir un bon match. Je pense que Sanu va être solide. Je vois une victoire des Pats. 24-10. Moi, je pense que les Titans vont avoir beaucoup de difficultés à compter des points.
J'ai hâte de voir ce que tu mentionnais sur le jeu au sol. Rappelle-toi les séries magistrales qu'a eu Sonny Michel l'an passé. Là. Il n'y a pas eu du tout la saison qu'on attendait, mais non. Peut-être que les Pats vont le sortir là en feu. Puis écoute, c'est pas long des fois que tu as le momentum en série. Là.
Absolument. Et je suis tellement tenté d'y aller avec les Titans, mais.
On n'est pas capable.
On ne croit pas à cette équipe-là encore. Donc, victoire des Pats. Ça va être assez serré, par contre, un genre de score bas, 20-9. Ils ne seront même pas capables de marquer toucher. Alors, voilà. Les spécialistes de la zone payante qui vont une victoire des Patriots.
Oui. Je tiens à dire, on le fait pas de gaieté de cœur de prendre les Pats. Là. Loin de là, je vous le dis.
On serait heureux d'annoncer la surprise. Là.
Tout à fait. Mais écoute, moi, j'y vais avec ce que ma logique me dicte.
C'est ce que j'ai fait aussi. Mais si on va prendre une petite pause de quelques secondes pour revenir et ensuite, on y va avec les matchs du dimanche de la conférence nationale.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Alors, on est de retour et on s'en va directement du côté des matchs du dimanche après-midi, des matchs de wild card dans la conférence nationale. Et on parle de gens malchanceux des fois dans la vie. Les Saints à 13-3 ont une malchance pas loin assez extrême. Tu joues un match de wild card à la maison à 13-3. Steph, c'est épouvantable ça là.
Non, ça n'a pas de sens. C'est vraiment surprenant parce que les Saints, écoute, je ne sais pas s'il y a une équipe plus équilibrée qu'eux autres dans la NFL. Est-ce que c'est les meilleurs? Je ne le sais plus. Là. Il y a bien des points à considérer, mais
l'équipe la plus complète.
Défensive, jeu au sol, jeu aérien, un receveur qui est clairement le meilleur de la ligue en Michael Thomas. Ils font beaucoup de très bonnes choses. Puis là, tu les vois en première ronde, c'est carrément inconcevable dans ma tête. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que les Vikings, honnêtement, sont tout simplement incapables cette année de battre les grosses équipes. Je pense que ça va être le match le moins serré du week-end.
Donc, une volée, là.
Ben, volée, j'irais peut-être pas jusqu'à voler, là, mais je serais pas surpris que ça soit par plus de 10 points, là, facile. Les Saints, honnêtement, je vois pas beaucoup de lacunes dans cette équipe-là. Le joueur qui pourrait causer la surprise du côté des Vikings, c'est Dalvin Cook. Il revient au jeu selon toute vraisemblance. C'est vraiment, là, pardonnez-moi l'expression, mais c'est leur game changer. Sauf que Cook, écoute, même avant de se blesser, il avait eu de la misère pas mal. Là. Dans ses derniers matchs, il n'avait pas gagné 4 verges par portée à ses 6 derniers matchs, Dalvin Cook. Il y avait quelque chose qui commençait à se passer avec lui. On dirait que peut-être les bobos qui traînaient avant que la vraie grosse blessure sorte, mais ça n'a pas été facile. Il n'y a pas eu de match de 100 verges ou plus au sol depuis le 20 octobre. Ça fait quand même un sacré bail. Est-ce qu'il peut revenir au sommet de son art? Si oui, écoute, les Vikings ont des chances d'être dans le coup parce qu'il est très dangereux.
C'est pas mal le temps. John Essay, qu'est-ce qui retient ton attention dans ce match, dans ce duel?
Ben oui, évidemment, Dalvin Cook, ça va être un facteur. Mais moi, ce que je retiens un peu plus, c'est que les Saints, au niveau de la tertiaire, sont maganés. C'est pas un club qui est en santé. Et je pense que ça va ouvrir beaucoup de choses pour les Vikings. Moi, je m'attends à un match serré, pas un match à sens unique. Je peux me tromper. Écoute, les chances, les choses peuvent péricliter très rapidement en Nouvelle-Orléans. Dans le Dôme, on sait que les Saints sont très à l'aise. Et je m'attends à quelque chose de quand même offensif comme match des deux côtés. Je pense que les défensifs vont avoir de la difficulté à arrêter leurs opposants, tout simplement. Puis, écoute, j'aime pas ça dire ça parce que je pense qu'éventuellement, c'est ce qui va coûter le match. Je pense que Kirk Cousins va être solide, mais quelque part, vers la fin,
quand brain fart,
ben, il va avoir une erreur majeure qui va se produire. Puis je sais que du côté des Saints, ben, Drew Brees, c'est pas le genre de gars qui va faire ce genre d'erreur-là. Donc, moi, j'ai les Saints, évidemment, à la maison. Et il y a une chose aussi pour moi qui est majeure, c'est Alvin Kamara. Alvin Kamara n'a pas connu, lui non plus, une grande saison. On s'attendait peut-être mieux au niveau statistique.
Ouais, la semaine dernière,
exactement.
La switch est tombée. L'interrupteur est tombé on.
Ouais, dans les deux dernières semaines, il est un peu plus utilisé.
Il y a 4 touchés à ces deux dernières.
Exact. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça va passer par là au niveau offensif du côté des Saints. Je pense qu'il va être utilisé à outrance. Puis les Vikings vont avoir de la difficulté à arrêter le jeu au sol des Saints. Donc, pour moi, c'est victoire des...
Moi, tout de suite, j'en ai voté.
Victoire des Saints, 35-28.
Oh, avec beaucoup
même pas
de 35, points.
35-31.
Oh, OK. Serré.
Plus serré, oui.
Je m'en vais du côté de Steph Catherine, qui, tu vois, remporter ce match.
J'y vais avec les Saints. Je pense que c'était assez clair dans mon analyse, mais j'y vais avec une victoire là, par une marge de 11 points, disons.
Un peu plus.
Juste confortable. Puis écoute, il y a deux facteurs qui me font dire que les Vikings peuvent pas être longtemps dans ce match-là. Michael Thomas, la tertiaire des Vikings s'est faite ridiculiser cette année à plusieurs reprises. Xavier Rhodes, saison très décevante. Il a été pendant quelques années, là, sans hésitation, parmi les 5 meilleurs demi de coin de la ligue, Xavier Rhodes. Tout simplement, il était dominant. Il est plus long de lui-même.
C'est fini ce temps-là.
Ah, il s'est fait dévorer cette année là, par l'opposition, honnêtement. Des fois, c'était même pas drôle. Puis là, t'arrives avec un gars comme Thomas. Dans 9 matchs différents, il a attrapé plus de 10 passes. Écoute, c'est quand même pas rien. Le ballon s'en va vers lui. Tout le stade le sait.
Et tout le monde sait qu'il va être attrapé, le ballon. Là.
Personne est capable de l'arrêter. L'autre facteur, les Saints, c'est une équipe qui ne se bat pas elle-même. Les revirements, 8 seulement cette saison. Exact. 8 revirements.
Hey, un demi-revirement par match en moyenne. Hey,
puis pensez à ça, les gars. Il y a 5 matchs quand même que Drew Brees n'était pas là. Ça aurait pu complètement dérailler cette affaire-là. Non, il protège le ballon jalousement. Ça, c'est la marque des bonnes équipes. Quand tu ne te bats pas toi-même, faut que l'autre club te batte. Puis c'est diablement plus compliqué là, pour une équipe comme les Vikings. Donc,
victoire des Saints pour Jean Carrier et Stéphane Gaudret. J'ai pas vraiment le choix d'aller vers là aussi. Là. Je pense que les Saints sont un meilleur club à la maison, dans le Dôme. Ça devrait être une victoire des Saints. J'y vais par une dizaine de points aussi.
Puis faut pas oublier les Saints, on n'a pas parlé, mais les Saints défensivement sont bons pour arrêter le sol. Ils sont, je pense, 5e défensive.
Ouais.
Donc c'est sûr que ça va être difficile pour Dalvin Cook d'amasser les verges. Je dis pas qu'il sera pas capable. Je pense qu'il va être en mesure de le faire, mais ça va, chaque verge va être durement gagnée, ça j'en suis convaincu. Puis c'est pas facile de jouer dans le dôme.
Et y a non, du non, bruit, non, c'est pas, y a du bruit.
Ah, c'est le zoo.
Ouais, exactement.
C'est le zoo carrément là-bas.
Un bon vieux chaos. Organized chaos.
Exactement.
Donc victoire des Saints.
Le match, je pense, moi qui m'intrigue beaucoup en vraiment. Cette semaine, parce que là on s'entend, on a des Seahawks de Seattle avec une fiche fort intéressante. Positive qui s'en vient à Philadelphie. Les Eagles qui se sont classés en série par la peau des fesses avec une fiche de 9-7. On a ouvert une deuxième clinique à côté de la première, tellement cette équipe-là a de blessés. Je ne sais pas s'il y a un journaliste quelque part qui a fait la nomenclature du nombre de joueurs qui ont fini sa liste de blessés. C'est peut-être un record. Tous les receveurs partant du début de l'année pratiquement ne seront pas en uniforme ce week-end. Beaucoup de blessés un peu partout. Des joueurs de ligne offensive importants qui ne feront pas participeront pas au match. Stéphane, qu'est-ce qui retient ton attention avant le... Qu'est-ce qui attire ton œil avant le match, ce match de dimanche qui oppose les Seahawks contre les Eagles à Philadelphie, même si les Seahawks ont une bien meilleure fiche. Philadelphie reçoit le match parce qu'ils ont gagné la pauvre division Est de la Conférence nationale. Stéphane.
Ben écoute, pour poursuivre sur ce que tu as dit par rapport aux blessures, moi, c'est ce qui retient mon attention parce que les Eagles, on n'est pas loin d'un club C. T'sais, ils ont été vaillants dans les dernières semaines, honnêtement. Carson Wentz a joué de l'énorme football avec ce qu'il avait à sa disposition.
Next man up s'applique bien pour eux cette année-là.
Mais c'est une chose là, de battre les Redskins puis les Giants deux fois. Là.
Non, exactement. Difficilement, d'ailleurs.
Ouais, tu t'en vas dans un vrai match contre les Seahawks. Je sais pas, j'ai hâte de voir parce que on parle beaucoup des receveurs, avec raison, qui sont blessés. Il y a Miles Sanders, le porteur, qui est amoché aussi.
Aussi.
Sur la ligne offensive, c'est déjà acquis que le garde Brandon Brooks va rater le match. Lane Johnson, le bloqueur à droite, qui est excellent. On n'est pas sûr, c'est un cas incertain. Zach Ertz, l'ailier rapproché, qui est un cas incertain. En défensive, Jalen Mills, le demi de coin, qui est un cas incertain. Non. Ça commence à
l'infirmerie est loadée.
Si ces gars-là jouent, fine, mais dans quel état?
Il joue blessé. Il n'est pas à 100% le joueur.
Ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclopés à des positions importantes. Je sais pas à quel point les Eagles peuvent rivaliser avec les Seahawks dans ce contexte-là. Ils ont beaucoup de mérite, là. T'sais, moi, j'entends beaucoup, les Eagles méritaient pas de faire les séries.
Non, les règlements disent que tu fais les séries comme ça. Ils les ont fait.
L'affiche leur donne pas beaucoup de mérite, mais bon, c'est une fiche gagnante.
Une fiche gagnante, en effet.
Moi, là où je leur donne beaucoup de mérite, c'est de s'être accroché malgré tout ce qu'on dit depuis tantôt. Combien de clubs qui a un ou deux blessés puis qu'on dit « Ah, ben c'est normal, ils font pas les séries, il y avait tel blessé. » Les Eagles, honnêtement, se sont battus comme des diables dans l'eau bénite avec ce qu'il y avait. Donc, ils méritent d'être là. C'est juste que je vois pas comment ils peuvent résister aux Seahawks qui sont clairement pas de la qualité de leur récente opposition.
Jean Garrier, à part l'infirmerie des Eagles, qu'est-ce que tu regardes dans ce duel du dimanche après-midi, 16h40, excusez-moi.
Moi, ce que je vais regarder, c'est un peu le mirage des Seahawks de Seattle.
Le mirage.
Le mirage parce que les Seahawks, quand on pense aux Seahawks, on pense qu'on court le ballon, on est bon défensivement. Puis quand tu regardes les statistiques, c'est ça. Les Seahawks ne seront plus bons défensivement. Au niveau des verges accordées, ils sont 25e cette année dans la NFL.
J'ai pas vu ça souvent à Seattle.
Malgré ça, il faut que tu donnes beaucoup de crédit au coaching staff parce que malgré cette défensive un peu poreuse-là, ils ont réussi à avoir toute une saison. Et ça, il faut vraiment donner un coup de chapeau à Russell Wilson qui a été extraordinaire cette année. Mais moi, c'est ça qui me perturbe beaucoup du côté des Seahawks. Ce club-là aussi ne joue pas du bon football dans les dernières semaines. Même contre les Niners, ils ont perdu le match, ils sont revenus, mais c'est pas convaincant. C'est Russell Wilson qui a fait en sorte que ce match-là était plus serré que pour moi il l'était là, au début. Je pense que les Niners étaient vraiment en contrôle du match. J'aime les chances des Eagles malgré l'infirmerie qui est vraiment extraordinaire. Puis l'autre point que j'aime aussi des Eagles, Carson Wentz. Carson Wentz aurait pu s'effondrer fin de saison. Écoute, puis personne lui aurait tenu rigueur.
Personne n'y en aurait voulu.
Ben non, je veux dire, tu dis, ben là, il n'y a pas d'outils, il lance à des recrues. Mais malgré ça, il a trouvé des façons de gagner des matchs. Je pense qu'il y a beaucoup de momentum du côté des Eagles, puis les Eagles jouent de la bonne défensive dans les 3-4 derniers matchs, ce qu'on n'avait pas vu, surtout au niveau aérien. Donc, moi, il y a quelques ingrédients pour une surprise.
On pourrait venir. Johnny, t'es tellement en feu, je vais te laisser aller. Prédiction pour le match de 16h40, Seahawks qui visite les Eagles.
C'est rare qu'il y a des surprises, que des week-ends sans surprise en série. Ben moi, ma surprise, elle est là. J'y vois avec une victoire des Eagles face aux Seahawks.
Oh!
24-21, victoire des hommes en vert.
Oh! Stéphane, Qu'as-tu de bon à dire après ce stunner?
Je n'ai malheureusement pas ton audace, cher Johnny. Je te félicite. Mais écoute, il y a un aspect aussi dont il fallait parler. Les Seahawks, cette année, c'est vraiment des guerriers de la route. Là. On a longtemps associé les Seahawks à un club de homers.
Bien à la maison.
Ouais, homers, c'est ça un peu l'expression. C'est à Seattle, ils sont fabuleux, ils gagnent, il y a du bruit, les équipes adverses sont déstabilisées. Ils arrivent sur la route, c'est plus la même équipe. C'est plus vrai, ça. C'est un mythe qui a été dépassé là, par le temps. L'édition actuelle des Seahawks, 7 victoires, 1 défaite sur la route cette saison, dont 5 victoires dans le fuseau horaire de l'Est, où ils s'en vont jouer en fin de semaine. C'est plus du tout la même équipe que ça a déjà été à ce niveau-là. Ça, je trouve ça encourageant. Puis, on a beaucoup parlé du retour de Marshawn Lynch parce que ça fascine les gens, c'est normal. Mais on a vu quelque chose la semaine passée contre les Niners. C'est que le jeune Travis Homer est capable de se débrouiller. Je pense qu'il apporte quelque chose à cette attaque-là.
On va l'impliquer dans le match du week-end, je suis pas mal certain.
C'est pas un nom qu'on connaît beaucoup, sauf qu'il a été dynamique par sa présence dans le jeu aérien. T'sais, j'ai trouvé qu'il avait amené une belle touche à l'attaque des Seahawks, là, malgré l'absence de Chris Carson. Donc, j'y vais avec les Seahawks, là, vous m'avez vu venir. Moi, je vais y aller parce que c'est toujours serré, les Seahawks, hein, vous savez.
On ne gagne jamais par 25.
Ah non, 10 de leurs 11 victoires par un touché ou moins. Fait que ça va continuer dans cette veine-là. Seahawks 30, Eagles 27.
Mathieu Boivin, qu'est-ce que tu as dit d'intelligent après ces analyses de savantes? Mais je vais y aller avec une victoire des Seahawks. Steph m'a convaincu.
Hein?
Steph m'a convaincu. L'affaire de l'équipe sur la route qui joue bien. Je pense que l'infirmerie des Eagles est juste trop pleine.
C'est fort possible. Il y a une chose, par contre, je vais rajouter un petit peu. J'aime pas l'appellation des jeux des Seahawks. Des fois, je trouve je l'ai déjà mentionné dans le podcast, je trouve que des fois, on reste accroché un peu trop souvent et longtemps aux jeux terrestres quand ils ne fonctionnent pas. Et s'il y a une chose que les Eagles sont super bons, c'est arrêter le jeu au sol. Donc, si on reste encore dans cette optique-là, j'ai l'impression que ça va donner un coup de main aux Eagles, puis ça va les rapprocher d'une surprise.
Excellent point. Il faut que les Seahawks aillent avec ce qu'ils ont entre les mains, puis c'est Russell Wilson qui est en
exactement. Russell Wilson.
Libérez-le.
Donc, libérez-le, donnez-y de l'espace, beaucoup plus de formation à 4 receveurs, puis il faut absolument que les Seahawks soient en mesure d'impliquer Tyler Lockett, qui est devenu un fantôme dans les 6 dernières semaines.
Oui, en effet, je l'avais dans un de mes fantaisies et il m'a fait sacrer les dimanches soirs. Alors, mais si on a fait le tour de nos prédictions pour les matchs du week-end, les matchs de wildcard, on va prendre une petite pause et ensuite, on s'en va parler de congédiement, le ménage anticipé du lundi d'après la fin de la saison, qui a été un petit peu moins pire qu'anticipé. On prend une petite pause et on vous revient. On est de retour et on parle ménage et non, on ne parle pas de fantasy. Quand je vous parlais d'aller fouiller dans le fantasy, dans les recyclages, c'est terminé, il n'y en a plus de fantasy. On s'en va directement dans le ménage des entraîneurs. Il y a eu un petit ménage qu'on appelle en anglais le Black Monday. Après la fin de la saison de la NFL, souvent les lundis, il y a un gros ménage. Ménage moins gros qu'habituel. On va aller faire peut-être un petit tour du côté des Redskins, Steph, en ouverture.
Ouais.
Vas-y, je te laisse aller.
Ménage moins gros qu'à l'habitude, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait deux coachs qui avaient déjà été mis
dehors. Il y avait déjà eu du pré-ménage de fait pendant la saison.
C'est ça. On avait sorti le balai avant de faire la balayeuse.
Exactement.
Mais Ron Rivera, moi, je trouve que c'est une très bonne
embauche. Hein?
Pour les Redskins, un entraîneur sérieux, crédible.
Respecté par ses joueurs.
C'est ça. C'est là le point que j'allais amener. Cam Newton a été très élogieux là, lorsqu'il a appris que Ron Rivera partait. Puis vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il aurait dit d'autre? Non, c'est pas vrai. Là. Il y a bien des joueurs qui sourient puis qui font toutes sortes de folies sur leur Instagram là, une fois que le coach est dehors. Lui, il a rendu éloge à Rivera. Il a dit, il m'a toujours laissé être moi-même. Puis c'est vrai qu'il y avait une genre de culture un peu comme ça là, au sein des Panthers de la Caroline. Il a pris cette équipe-là vraiment au bas de l'échelle. Là. Il ressortait quoi d'une saison, d'une victoire, 15 défaites? Oui, il a été chanceux dans un sens. Il a hérité du premier choix avec Cam Newton. ça aide à partir sur des bonnes bases.
Mais un premier choix de première ronde ne te donne pas automatiquement la voie du Super Bowl.
Non, c'est ça. Puis écoute, il a amené ce club-là en série plus souvent qu'autrement dans une division où les Saints et les Falcons ont été pas mal forts dans ces années-là. Tu sais, il a été sérieux pour cette organisation-là. J'ai hâte de le voir à Washington. Est-ce que ça va être le contexte dysfonctionnel qu'on a toujours connu avec le propriétaire Dan Snyder qui se mêle de tout, là?
Parce que là, on a mis le président de l'équipe dehors.
C'est ça. Ça laisse croire qu'il va avoir une nouvelle structure de pouvoir puis que Rivera va avoir beaucoup son mot à dire là, sur les décisions du personnel et tout. Mais j'ai hâte de voir parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une folie avec un gars comme Snyder, très égocentrique, qui veut avoir vraiment le nez partout. C'est le seul point d'interrogation, mais ça, peu importe le coach qui embauchait, ça demeurerait un point d'interrogation. Donc, je pense qu'on a été avec la bonne personne pour ce poste-là. Reste juste à voir la structure.
J'en ai, oui, continue sur le ménage entrepris du côté des Redskins.
Oui, j'adore cette embauche-là. On savait que Rivera ne serait pas au chômage très longtemps, ça a été prouvé. C'est un homme de qualité. Pis, on en parlait aussi, il y a différentes sortes d'entraîneurs-chefs dans la NFL, mais je pense qu'un des points importants, c'est qu'il faut que tu sois un meneur d'hommes, faut que tu gères des égos, faut que tu gères beaucoup des personnes. Comme un peu un président de compagnie, ça va au-delà des X puis des O. Puis dans son cas, je pense qu'il le fait très bien. Déjà là aussi, l'embauche du canteur défensif, pour moi, est excellente. Jack Del Rio vient d'être embauché par les Redskins.
C'est un gars comme coach, entraîneur-chef, toujours trouvé moyen. Mais comme coordonnateur défensif, il n'y a rien à dire.
Exact. Il est très, très solide. Donc, ça montre le sérieux. Je pense que les Redskins vont remonter au classement assez rapidement avec Rivera à la tête. Peut-être pas l'an prochain, mais les bases vont être solides.
Moi, je me rappelle, Jean, t'avais dit à un moment donné, cette division-là a des pas mauvais coachs, mais on n'est plus à l'époque. Des entraîneurs incroyables.
Exact,
là,
c'est plus l'époque des Bills.
Là, on a un bon coach qui arrive dans une organisation qui en a de besoin. Mais si on continue le ménage et on va rester dans la division S de la Conférence nationale. Jean, les Giants qui ont montré la patte à M. Shurmur. Après deux ans, c'est une bonne décision, à ton avis, ou un petit peu... trop rapide. Je te laisse aller.
Ben, j'ai l'impression que les Giants voulaient voir au moins un semblant d'amélioration, puis il n'y en a pas eu sous l'ère Pat Shurmur. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a indiqué la porte de sortie. Puis à ce niveau-là, je peux pas croire que c'est une mauvaise décision. Moi non plus, Pat Shurmur, il y a des choses que j'aimais pas. Puis dans ses conférences de presse, des fois, il blâmait beaucoup de personnes, sauf lui puis le coaching staff. Ça me dérange un petit peu. Des fois, il faut que tu prennes le blâme. Quand tu es entraîneur-chef, c'est toi le capitaine. Puis à la fin de la journée, le blâme, il revient sur toi. Ça, je pense que ça a dérangé aussi la direction des Giants. Ceci étant dit, on parlait des Giants de New York, on parle d'une franchise qui avait beaucoup, beaucoup de stabilité puis une continuité.
Ouais.
C'est ça qui est en train de se perdre avec les Giants. Là, nouvel entraîneur-chef encore, recommencé à zéro.
Ça fait deux de suite qu'ils partent en dedans de deux ans.
Exact.
Deux saisons,
Max. Moi, c'est quelque chose qui est surprenant là, du côté de l'organisation des
Parce
G-Men.
La stabilité, excusez-moi, dans la NFL, c'est important. Rapidement, on regarde les Ravens, le même directeur général, depuis que l'équipe existe, si je me trompe pas. Et cette équipe-là, oui, a des saisons décevantes, mais généralement, est en mesure, après une saison décevante, de mettre le bateau droit et d'avoir une bonne saison. Donc, des fois, changer d'entraîneur puis de directeur général, ça t'amène pas automatiquement le succès là.
Non. Puis, on va voir aussi, ça va être quelle embauche que les Giants vont y aller. Vont-ils y aller avec la nouvelle vague, avec un gars offensif, ou ils vont y aller peut-être il y en a pas beaucoup, là, des gars de la trempe de Ron Rivera qui traînent dans les sans-emploi sur le chômage. Là, ils en traînent pas tant. Ça va être intéressant. Ça reste qu'il y a beaucoup je pense, de choses qui sont intéressantes quand même avec les Giants, dont Saquon Barkley, qui n'a pas eu une grande saison. Je crois et je pense encore que c'est un talent générationnel à la position de porteur de ballon. Faut absolument que les Giants construisent. Puis le point que je voulais dire, c'est que c'est pas nécessairement toute la faute de Pat Shurmur. Ce club-là, il est mal construit. Mm-hmm. T'as Saquon Barkley, t'as une ligne à l'attaque horrible. Faut que ça change rapidement.
T'as beau avoir un porteur extraordinaire si les trous sont pas là en avant.
Ben, exact. Je pense que Jones montre des belles choses comme carrière, mais là, la fondation, c'est rapide. Là, faut que t'ailles aller solidifier vraiment avec les gros bonhommes au niveau des Giants. Là, c'est ça que le repêchage doit corriger parce que c'est une lacune extraordinaire présentement.
Steph, petit mot peut-être sur ce congédiement de M. Shermer?
Écoute, les résultats étaient tout simplement pas là. C'est juste deux saisons, mais Pat Shermer avait eu sa chance aussi à Cleveland quelques années plus tôt, puis ça a été les mêmes résultats. T'sais, tu vois qu'à un moment donné, c'est difficile, tu pourras peut-être pas soutirer plus de lui. Ce qui va être intéressant aussi, les Giants, c'est au niveau des embauches de coordonnateurs, parce que tu as une défensive qui en arrache pas à peu près. Ça va être important de redresser la barque à ce niveau-là. Puis, qui on va embaucher au niveau offensif pour assurer un minimum de continuité avec Daniel Jones, le jeune corps arrière? Ça, c'est bien important. La dernière chose que tu veux citer les Giants, c'est que le jeune se retrouve avec deux, puis trois, puis quatre coordonnateurs différents là, dans les trois, quatre premières années de sa carrière. Ça, c'est recette pour un désastre.
Non, c'est clair. Tu veux offrir de la stabilité à un jeune carrière.
Donc, faut, pour le poste d'entraîneur-chef, pas se fier à « OK, il faut absolument engager un gourou des corps arrière là, pour notre jeune. » C'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. Ce gourou-là, prends-le comme coordonnateur offensif puis assure-toi d'avoir le meilleur homme à la tête de la pyramide. Ben, hâte de voir. Est-ce que Josh McDaniels pourrait être un candidat intéressé, travailler avec un jeune comme Jones? Je le sais pas. Là, je pense que cette fois-ci, il va vraiment quitter les Patriots. À chaque année, il y a les rumeurs, puis on... ça finit que Josh McDaniels reste en poste.
Il avait même été annoncé entraîneur-chef des Colts
ça a été
par le passé, et il avait changé d'idée.
Donc ça reste à suivre, mais en tout cas, j'aime pas habituellement ces genres de décisions-là quand tu t'éloignes d'un entraîneur après seulement une ou deux saisons. Mais dans le cas des Giants, tout comme dans le cas des Browns d'ailleurs, fallait procéder à un changement rapide.
Parlant des Browns, on va épargner l'ami John ici.
Ouais, on peut, il n'y a pas de problème.
Mais on va commencer avec Steph. L'entraîneur des Browns, Kitchen, lui, n'a pas été éclairé le lundi. Ça a été un magasinage, un nettoyage hâtif du dimanche soir, ce qui est assez rare. Généralement, les annonces sont faites le lundi. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que cet homme-là n'était pas à la bonne place.
C'est exactement ça. Pas à la bonne place. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bonhomme de football.
Mais pas à la position d'entraîneur-chef.
Quand tu es entraîneur-chef, il faut que tu sois, oui, les X et les O, mais il faut que tu sois psychologue. Il faut que tu aies un paquet de qualités pour gérer une bande de jeunes millionnaires qui ont des égos démesurés. Puis dans le vestiaire des Browns, il y en avait quelques-uns des égos.
Notamment le boulanger, pas juste lui, le receveur numéro 13. Il y en avait quelques-uns.
Jarvis Landry aussi.
Oui,
non plus.
Ouais, continuons. Ah ouais, Johnny, continue. Là.
Ben, moi, ce que je retiens, c'est justement Landry, il a dit qu'est-ce que les Browns ont le plus besoin présentement, c'est du leadership. C'était ça sa réponse. Puis ça montre que Kitchen n'était pas l'homme de la situation. Tu regardes, écoute, c'est la bonne décision. Le club était très indiscipliné sur le terrain. L'appellation des jeux faisait défaut. Moi, je pense que c'est ça qui aurait dû confier à quelqu'un d'autre. Ça a été ça sa plus grande erreur. C'est garder justement l'appellation des jeux offensifs. Ça a fait en sorte, selon moi, que c'était beaucoup trop lui demander à sa première saison comme entraîneur-chef.
C'était pas Todd Monken,
offensif
là-bas, puis il appelait pas les jeux. Je veux dire, il y avait quand même une expérience à ce niveau-là.
Exact, mais Kitchen se mettait trop le nez là-dedans.
Ouais.
Donc, ça a fait ce que... Bon, bonne spécification, là, Steph, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il aurait simplement dû délaisser et déléguer. Il l'a pas fait, puis ça a fait en sorte que la saison des Browns a été une catastrophe sur toute la ligne. L'appellation des jeux cette année, les Browns, c'était horrible. Et ça fait en sorte que Baker Mayfield vienne perdre une année dans son développement. J'ai hâte de voir qui va rentrer là.
On a vu des matchs où il est capable d'être hot.
Oui.
Ben,
on l'a vu surtout au début de sa carrière, sa première année. Cette année...
On a vu quelques matchs. La majorité des matchs ont été difficiles.
Mais
il est capable de bien jouer.
Il est capable, mais il faut qu'il... faut qu'il absolument règle son problème de revirement. Beaucoup trop d'interceptions
lancées. Ça, c'est clair.
Et moi, je pense que l'attaque est mal construite. C'est une attaque un peu de college que les Browns avaient. Puis je pense pas que Baker Mayfield, même si c'est une attaque qui est confortable avec, Je pense pas que c'est la seule chose qu'il doit faire dans la NFL. C'est trop, il est pas assez athlétique pour être dans ce genre d'attaque-là. C'est pas Lamar Jackson, Baker Mayfield. Il se doit de devenir un pocket passer un peu plus, copier un peu ce que Drew Brees fait avec les Saints. Moi, ça serait ça, mon, je dirais, c'est le genre de film que je lui montrerais beaucoup. Comment Drew Brees se déplace dans la pochette, son footwork, son tout ce qui rentre en ligne de compte, qui fait que Drew Brees est un bon corps arrière. Ben Baker, je pense qu'il est capable. Je sais pas qu'il va être Drew Brees, c'est pas ça mon point, mais je pense qu'il faudrait le mouler dans ce sens-là. C'est ça mon ce que moi je pense là, de Baker Mayfield, et c'est pas ça que je vois avec ce que j'ai vu des Browns cette année.
Tu voulais-tu compléter pour les Browns ou on a fait le tour? C'est correct pour toi?
Tour d'horizon pour moi.
Parfait. Là, les gars, on a fait le tour des congédiements. J'en ai-tu oublié un?
Ben, il y a le cas de Jason Garrett qui est en suspens.
Ben,
peut-être que ça va être réglé au moment de...
La diffusion du balado. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, pour l'information des auditeurs, on enregistre jeudi matin. Donc là, l'entraîneur Garrett est toujours là. On s'entend tous pour dire autour de la table que ça n'a pas de bon sens.
C'est une question de temps, c'est clair, là, ça va se faire. Moi, ce que je pense que les Cowboys sont en train de regarder avec lui, parce que Garrett fait partie de la famille.
Il y a vraiment un enjeu d'aspect familial. On aime cet individu-là. Là. Peut-être qu'on n'aime pas le coach qui prend des mauvaises décisions, mais on aime l'homme.
Il ne faut pas oublier une chose, Garrett était le réserviste à l'époque de Troy Aikman pendant quelques années. Ça fait longtemps qu'il est dans l'organisation. On l'a amené, même lorsqu'il était joueur, dans des meetings de coach. On essayait un peu de le former. Ça fait comme des années qu'on avait cette vision-là pour lui. Donc, ça peut être dur pour Jerry Jones, mais il faut qu'il fasse le move. Il faut qu'il coupe le cordon, ça, c'est sûr.
On l'a vu. Ce n'est pas l'homme de la situation.
Puis pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est pas arrivé lundi? Pourquoi c'est pas arrivé dimanche soir? J'ai comme la vague impression que les Cowboys sont peut-être en train d'essayer de parler avec lui pour trouver un autre rôle dans l'organisation. Je sais pas quoi, là. Mais est-ce qu'ils peuvent en arriver à un divorce qui est pas trop acrimonieux? Je pense que c'est un peu là-dessus que Jones et Garrett travaillent. Je vois pas d'autres raisons parce que je peux pas croire qu'ils sont en train de négocier une prolongation de contrat. Le contrat est à échéance. Garrett a pas livré.
T'as même pas besoin d'annoncer qu'il part. Le contrat est fini.
C'est ça. C'est pas un congédiement au sens technique, là. Je vois pas d'autre chose qu'on est en train de voir comment le garder un peu dans la famille. Bon, même si c'est plus le père, est-ce que ça peut être le cousin? Là, je sais pas. Il y a quelque chose là derrière ça parce que c'est pas normal que ce soit pas déjà réglé.
Jean Carrier.
Ben moi, ça commence à me faire peur, moi, cette histoire-là.
Le délai t'inquiète.
Ben, le délai, écoute, c'est... Oui,
quand
certain moment...
Quand on va en reprise vidéo longtemps, c'est souvent qu'on cherche à revenir.
Exact. Je peux pas croire que les Cowboys prendraient la non-décision de pas virer Jason Garrett. Présentement, Jason Garrett, pour moi, c'est le Jeff Fisher de la NFL.
Oh.
C'est aussi simple que ça. C'est un gars qui est en poste depuis beaucoup trop longtemps, qui a jamais livré la marchandise, ou à peu près. J'ai aucune idée comment ça, qui a encore un emploi. Je suis quand même très dur là envers Jason Garrett, mais montrez-moi ce qu'il a fait comme entraîneur-chef.
Les faits sont, te donnent raison.
Avec du talent aussi.
Ah
c'est
non,
ça
c'est
le
pas
problème.
Comme s'il y avait des alignements.
Excellent point.
Sans joueurs. Là.
Exactement.
Des joueurs de talent.
Pas tout le temps, là, mais dans les dernières années, c'est indéniable. Ça. Il y a eu beaucoup de talent à sa disposition.
La défensive, il me semble que c'est une bonne défensive. À l'attaque, on a des outils, des joueurs de génération. Peut-être pas de génération, mais des je parle au niveau de Ezekiel Elliott.
Ouais, donc,
la
ligne offensive. Donc, il y a des outils pour se battre.
Et ils ont une bonne défensive aussi au niveau individuel.
Je dirais pas extraordinaire, mais...
Un très bon front défensif.
Très bon front, des secondaires de qualité. Donc, il devrait pas cette équipe-là, avec la faiblesse de la division cette année, de leur division, elle devrait être en série.
Ouais, c'est un autre bon point.
Ah, oui.
Donc, toutes ces raisons-là, on s'entend que Jason Garrett devrait être dehors, puis ça aurait déjà dû être fait. Oui, peut-être que c'est... je m'arrange peut-être du côté de Steph, peut-être que c'est ça qu'on est en train.
C'est ce que tu souhaites, j'ai l'impression.
Ben, moi, c'est ce que je souhaite, mais je commence à avoir peur. Là. Tu sais, c'est pas normal. C'est juste pas normal comme situation. Donc, on va voir qu'est-ce qui va ressortir là, de ces fameux meetings présentement entre Garrett puis l'organisation des Cowboys. L'autre point aussi qu'il faut mentionner, faut dire rapidement, Doug Marrone a gardé sa job aussi avec les Jags.
Oui, ça avait été annoncé même le dimanche, avant les matchs par c'est Adam Schefter. J'ai un blanc de mémoire, mais ça avait sorti avant les matchs du dimanche. Et rapidement, l'organisation était sortie par le relationniste pour dire il n'y aura pas de congédiement de l'entraîneur.
Ben, il avait dit en fait que la décision n'avait pas été prise, qu'il fallait évaluer tout ça. Puis à ce moment-là, on se dit OK, c'est une simple formalité, ils vont l'annoncer après le match. Puis non, il revient, le directeur gérant qui revient aussi.
Tout le monde. On a, en fait, dans cette équipe-là, on a mis
Coughlin.
On a mis le VP dehors.
Autrement dit, ce qu'on essaie de voir chez les Jaguars, c'est est-ce que sans l'ombre de Tom Coughlin, qui avait beaucoup d'emprise sur l'organisation et les décisions concernant le personnel, est-ce que sans cette ombre-là, Doug Marrone peut s'épanouir puis devenir un entraîneur plus respecté, plus productif? Je sais pas. Moi, honnêtement, je suis pas convaincu du tout que c'est la bonne personne pour la situation. Là. Je pense que c'est un vestiaire aussi qui a été assez explosif par le passé. Il m'a pas démontré que c'était un gars qui pouvait contrôler nécessairement ses troupes. Je comprends pas la décision des Jaguars personnellement.
La misère à la comprendre, Johnny?
Ben moi aussi, j'ai de la misère, mais on parle de continuité. Ben écoute, les Jaguars ont décidé de donner une chance un peu plus longue à Marrone pour installer son programme, tout simplement. Donc, on va voir si c'est la bonne décision. J'ai des gros doutes aussi, puis il y a vraiment du travail à faire au niveau du personnel des Jags. Je pense entre autres à la ligne à l'attaque qui est pitoyable. Pitoyable,
ils sont ils se sont fait marcher dessus au sol cette année.
Et la défensive n'est plus du tout ce qu'elle était là, il y a 3-4 ans. Là. Donc, il y a du travail à faire. Est-ce que je suis d'accord que moi, je pense que Coughlin emmenait beaucoup trop et il n'amenait pas beaucoup de choses positives du côté des Jacks. J'ai pas de problème avec la séparation. C'est peut-être ça qui va
Le bon Tom, je sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai vu ça dans un article. Il avait avancé l'heure. Partout, dans l'édifice.
Il a toujours fait ça avec les Jays.
Ouais. Les horloges avançaient partout, mais ce qui est comique, dans le reportage que j'avais lu sur son congédiement, le jour même, toutes les horloges ont été remises à l'heure.
c'est des vieilles méthodes qui, écoute, avec la génération actuelle de joueurs, ça passe tout simplement pas.
Et Tom Coughlin, faut pas, ça reste
un très bonhomme de football.
Un gars qui est pas loin du temple de la renommée comme coach. Là, on va s'entendre.
C'est les méthodes là, qui sont
un peu dépassées,
pas actualisées.
Archaïques. Ouais. Les boys, on a fait le tour du ménage du lundi. Et on va prendre une petite pause et on le sait que vous l'attendiez, cher auditeur, la fameuse chronique au bar. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. Alors, on est de retour pour la chronique au bar, chers auditeurs. Et je me retourne du côté de Stéphane Cadorette. Qui va au bar pour toi, Steph, cette semaine?
Je suis content parce que ça me donne l'occasion de remercier un auditeur qui m'a écrit, un dénommé Martin Perron, qui dit qu'il n'a pas raté un de nos épisodes jusqu'ici. On le salue.
Merci, Martin.
Way to go, Martin.
Parce que je me cherchais un client au bar. C'est certainement pas Martin le client.
Mais lui, il t'a inspiré vers le client, voilà.
Parce qu'il me parlait d'une récente chronique que j'ai écrite dans le journal, puis il me disait ça a été pitoyable la gestion de fin de match des Seahawks contre les Niners. Ça a été vraiment mauvais. Rappelez-vous qu'ils sont à la ligne de 1. Tout le monde dans le stade se met à fabuler. Run the ball! Et là, les Seahawks sont complètement désorganisés, sont tout croches, il y a de la confusion dans les substitutions de personnel, c'est tout de travers, bref. Puis à la ligne de 1, on prend une pénalité pour delay of game, on recule à la ligne de 6. Écoute, ils n'ont pas rentré dans la zone des buts. Très mauvaise gestion de fin de match.
Centimètres, on s'en rappelle, mais oui, sur la fin du match, ils ont passé à pas grand-chose, mais je suis d'accord avec toi, ils l'ont échappé solide là, à ce moment-là.
Ben, effectivement, la place bien chaude au bord revient à Pete Carroll, puis c'est pas de gaieté de cœur parce que c'est un excellent coach.
Ouais, on aime tous Pete. On aime tous Pete. Là.
Il a amené une culture vraiment, vraiment le fun à Seattle. Il est un bon coach. Mais honnêtement, en situation de gestion de match comme ça, c'est arrivé souvent qu'il y a eu des ratés. S'il y a une chose à dire sur Pete Carroll, là, c'est celle-là.
Si t'envoies Pete Carroll au bar, ça se peut que j'aille au bar aussi parce qu'il m'a l'air d'un gars le fun. Je vais prendre un verre avec sans
problème. C'est clair, je vous accompagne les gars. Moi, s'il y a un gars dans la NFL avec qui je voudrais prendre une bière, c'est lui. Là. Donc, je l'envoie au bar, mais c'est une petite tape ses doigts en fait. Là. Puis merci à notre fidèle auditeur, là, c'est une bonne suggestion.
Continue, pas Stéphane, excuse-moi, Jean, qui tu envoies au bar cette semaine?
Ben, écoute, situation un peu loufoque, les Browns qui remportent vrai, la drôle, bataille de l'Ohio face aux... Les Bengals remportent la bataille de l'Ohio face aux Browns. Et là, écoute, on sait que les Bengals n'ont pas gagné très souvent cette saison. C'est deuxième fait. Victoire, on dirait qu'ils ne savaient même pas comment célébrer. Joe Mixon enlève son casque. On dirait qu'il veut lancer le casque vers le sideline, vers les lignes de côté. Il lance directement sur l'officiel.
Hey, dingue,
l'officiel croule au sol. Essaye de le relever, mais tu vois qu'il est vraiment blessé. Écoute, pour tout ça, je pense que Joe Mixon a besoin d'aller prendre une bière au bar. Je suis sûr que ça s'est fait d'ailleurs après la victoire des Browns, mais je lui ordonne de retourner au bar prendre quelques bières.
Moi, les gars, ça va prendre un bar quand même pas mal de place. Ça va prendre un trône, là, même, pour la personne en chef. Parce qu'honnêtement, j'en ai parlé souvent cette année, puis les boys, vous me disiez un peu que j'étais un peu tanné avec ça, mais l'arbitrage a été horrible encore cette année dans la NFL. Des matchs décidés par des mauvaises décisions. Encore le lundi soir, le match du dimanche soir, un gros pass interference qui n'a pas été appelé, qui était évident. On a mis des mécanismes en place pour éviter ça, et ça ne règle rien. Est-ce qu'on va avoir encore en série cette année une autre immense erreur d'appel sur un call d'arbitrage qui va changer le gagnant d'un match? Alors, pour tout ça, j'envoie tous les arbitres de la Ligue au bord.
Oh boy!
Incluant les responsables d'arbitrage, tous ceux qui prennent les décisions, puis qui, disons, là, derrière l'écran, là, oui ou non. J'envoie Goddard aussi. C'est pour ça que je dis que ça prenait le trône. C'est tout le monde, parce qu'une Ligue aussi importante, qui a autant de visibilité, incapable d'avoir un arbitrage digne de ce nom, c'est non. C'est non. Alors, c'est ce que j'ai à dire. Oubliez ça. Moi, je les envoie directement, directement toute la gang au bar.
Il fut un temps jadis où la NFL était le sport le mieux arbitré dans les sports majeurs. On le disait souvent. Mais honnêtement, dans les trois dernières années, on peut absolument pas affirmer ça. Là. C'est faux de dire ça. Ça prend une amélioration rapide de ce côté-là.
Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui. Bon, merci d'avoir été là. On va se souhaiter un bon samedi et un bon dimanche de football. Et on va se revoir vendredi prochain pour la prochaine diffusion de la zone payante. Merci d'avoir été là, Stéphane.
C'est un plaisir, surtout qu'on s'en va vers la grosse saison.
Merci d'avoir été là, Johnny.
On se souhaite des immenses playoffs.
Merci d'avoir été là. On vous reparle, chers auditeurs, la semaine prochaine.